Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. C'est un livre tellement pluriel qu'il en devient singulier. Un livre polyphonique qui fait entendre les voix, les rêves et les émotions d'une fratrie après la disparition de la mère, mais qui brasse aussi les sentiments du père, de la tante ou d'un pépé tout neuf. Un livre hybride qui mélange les genres, le roman et le conte, la fable et la parabole, passant de la prose au vers avec des passages épistolaires. Et c'est de ce double métissage que surgit des tréfonds de la terre et du bruissement du vent une petite musique singulière, chamanique et poétique qui raconte avec délicatesse et sans le moindre pathos le deuil et la résilience à hauteur d'enfant, celui que nous étions et que nous sommes toujours un peu. Zizi Cabane, le nouveau roman de Bérangère Cournu, est paru aux éditions du Tripode et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Bérangère Cournu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors je le disais, Zizi Cabane, c'est un roman polyphonique. J'aurais d'ailleurs pu citer plein d'autres personnages. Une infirmière très attentive nommée Kadiatou, une étrange fille au prénom non moins étrange puisqu'elle s'appelle Ours, ou encore un fauconnier qui lui se nomme Hans. Mais je voudrais commencer par un personnage qui n'a pas de prénom, qui n'a pas de corps, quoique, pas de cœur, pas de tête, la maison. Vous êtes d'accord, c'est un personnage.
Ah oui,
la maison
personnage.
Dans ce roman, c'est bien plus qu'un décor.
Oui, oui. C'était même, je pense que c'était, elle est même à l'origine, sans doute, de l'idée même du roman. C'est-à-dire qu'au départ, la maison, elle a déjà un rôle important, mais j'avais même envisagé qu'elle soit encore plus importante.
Alors, c'est le premier personnage que vous nous présentez, dans le premier chapitre de la première partie du livre, qui s'appelle Fondation. Fondation au pluriel, justement. On dit d'ailleurs dans la conversation qu'une maison a une âme. Vous êtes d'accord ?
Ah bah oui, surtout celle-là en plus.
C'est quoi pour vous l'âme d'une maison, Bérangère Cournu ?
Alors pour moi, en tout cas, l'idée de départ, c'est qu'il y avait cette... vous avez parlé, effectivement, je pense que c'est un roman à hauteur d'enfant. Et c'est vrai que je pense que les premiers souvenirs, du moins pour les gens qui grandissent dans une maison ou un appartement, les premiers souvenirs sont très très liés à la maison, à sa matérialité même, à ses matériaux même, j'allais dire. Je pense que comme on ne vit pas plus dans les forêts ou sur les rivages, etc., toute notre attention d'enfant est fixée sur les matériaux de la maison, je pense. Ouais.
Alors comment vous l'avez construite, si je veux dire, cette maison, Bérangère Cournu, à quoi elle ressemble, la maison de Zizi Cabane et de sa famille ?
Moi, je la connais très bien, c'est une maison qui m'est très familière. D'une certaine façon, c'est celle dans laquelle j'ai grandi. Et je pense que j'aurais eu du mal à en inventer une autre. Après, voilà, comme en littérature, toujours, elle se transforme beaucoup et en plein d'aspects, elle s'éloigne de celle que j'ai connue. Mais par exemple, les joints de carrelage, je les ai précisément en tête. Oui.
Alors, la maison que les parents de Zizi Cabane ont construite, elle se trouve dans un village qui s'appelle Laguerre, en un seul mot. Alors, quand on sait l'importance que les noms propres, et on va s'y arrêter un instant... Quand on sait l'importance que les noms propres ont dans le roman, on se dit que vous n'avez pas choisi ce nom de village par hasard. Pourquoi est-ce que Zizi et sa famille habitent-ils la guerre ? Habiter la guerre, c'est rude quand même.
Oui, alors après, voilà, vous allez m'obliger à dire quelque chose que je m'étais promis de garder secret. En fait, je pense que les mots m'ont façonné avant que moi-même je façonne les mots. Et en fait, voilà, j'ai tout simplement grandi dans un village qui s'appelle Guerreville.
Ah.
Et par ailleurs, voilà, il y a beaucoup de noms, en fait, ou même si... Alors forcément, je ne le fais pas de façon complètement inconsciente, mais disons que si je choisis d'appeler le village La Guerre, c'est que j'assume, on va dire, forcément un peu la part symbolique, tout en justement ne m'en servant pas et en faisant de ce village qui s'appelle La Guerre un endroit de paix absolue, finalement. Du moins pour Zizi Cabane.
Nous sommes à la page 21 du livre. La narratrice, à ce moment-là du livre, c'est Zizi Cabane, justement.
Mon père a passé un an à mettre hors d'eau le bâti, puis une autre année à chasser les courants d'air. Peu de temps après, ils ont eu mon frère, qu'ils ont d'abord appelé Martin. Puis un matin, en regardant l'enfant, dont ils ne se cachaient pas l'un l'autre être amoureux, ils se sont dit « Martin, c'est le nom qu'on a choisi pour lui quand on ne le connaissait pas. Maintenant, c'est différent. On l'appellera Béguin. » Dans la foulée, mon père a renié son propre prénom. Désormais, il n'était plus urbain, mais fermant. Une trouvaille de maman au creux de leur nuit. Odile s'apprêtait aussi à changer de prénom. Mais mon père a dit « Ah non, Odile, c'est trop doux. Si tu y renonces, je deviens fou. » 3 ans plus tard, mon autre frère est né. Lui aussi a été baptisé, mais d'un nom qu'on a aussitôt oublié. Car au bout de quelques semaines, son amour des chiffons était tel il lui en fallait partout, tout le temps, dans son couffin et dans son lit, en voiture et même au sein, que mes parents et notre frère l'ont appelé chiffon. Pour moi, qui suis arrivée 5 ans plus tard, tout le monde avait retenu la leçon. Pas de prénom auquel on ferait semblant de croire. Mon père et ma mère m'ont ramené à la maison en m'appelant bébé. Puis ils ont attendu que ça vienne. En vérité, ça n'a pas tardé. Au premier bain dans le lavabo de faïence, à hauteur d'yeux de chiffon, mon frère a demandé « Pourquoi il est cassé, le zizi de ma sœur ?» Maman est entrée en fureur. « Mais enfin, il n'est pas cassé ! Qu'est-ce que tu t'imagines, espèce d'enfant aveugle ?» Mon frère a dit « Si, regarde, il est cassé, il n'y a rien à tirer !» Mon père a ri. Odile a pris le temps d'expliquer. « Alors, les garçons, vous avez, c'est vrai, un zizi qui peut viser, se dresser et s'affaisser dans un frisson. Pour vous flatter, appelons-le zizi totem. Mais les filles, voyez-vous, ont un zizi elles aussi. Un zizi plus mystérieux, caché là, dans un pli, et que vous comprendrez un jour autrement qu'avec vos yeux. D'accord ?» Béguin ricanait un peu, mais Chiffon a dit d'un ton blasé. « Un zizi cabane, quoi !» Personne n'aurait trouvé mieux, ni plus vrai, ni plus joyeux. C'est ainsi que je suis devenue la première, la seule, la vraie, Zizi Cabane.
Et voilà donc l'explication du titre de votre roman, Bérengère Cournu. Zizi Cabane, c'est donc la plus jeune, la plus petite de la famille. C'est celle aussi qui va avoir le destin le plus heurté de tous. On va le découvrir dans la dernière partie du roman. Pourquoi est-ce que c'est elle qui a les honneurs du titre, en quelque sorte, alors que, je le répète, on est vraiment dans un roman choral et polyphonique? Pourquoi est-ce que vous avez voulu... Je ne sais pas si vous l'avez voulu d'ailleurs, mais enfin, résumez tout cela au personnage de Zizi Cabane.
Si, si, je l'ai voulu parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur la mémoire des enfants, c'est-à-dire que, alors que le roman commence par cette phrase, du moins à peu près, je me souviens de tout, finalement, en fait, Zizi Cabane, elle ne se souvient pas de grand-chose puisqu'elle n'a que 4-5 ans quand sa mère disparaît. Et comme je l'avais fait peut-être parfois dans des précédents romans, je trouve que la vision du monde à hauteur d'enfant permet d'expliquer certaines choses, justement sans trop les expliquer. C'est-à-dire on ne part pas du principe que c'est acquis. Et si par exemple j'avais écrit ce roman avec le point de vue principal du père, on serait tombé dans quelque chose de beaucoup plus pathétique parce que lui étant adulte, il aurait très bien compris que la disparition de la mère était dramatique. Alors que Zizi Cabane, des trois étant la plus jeune, c'est encore celle qui peut entretenir un espoir, justement, qui ne soit pas pathétique de retour de la mère. Et c'est une façon de laisser plus d'espace. Et d'ailleurs, tout le monde est tellement attentif.
De laisser plus d'espace à l'écrivaine que vous êtes ou de laisser plus d'espace au lecteur et lectrice?
Alors, aux deux, en fait. Et j'allais dire même, en fait, surtout même de laisser plus d'espace, y compris aux autres personnages, en fait. Parce que tout le monde... étant attentif à Zizi Cabane, tout le monde fait attention à ne pas avoir de vision trop frontale, d'explication trop frontale sur cette disparition maternelle. Et du coup, je pense que ça leur sert à tous, c'est-à-dire que tous évitent de s'enfermer dans un chagrin qui serait trop pesant, ça leur évite d'ailleurs aussi de faire de la maison un tombeau. Et tous laissent libre cours à une folie qui va venir combler un peu le chagrin qui est le leur. Et c'est peut-être en ça que la fantaisie des enfants, leur innocence et aussi leur très grande conscience, en fait, j'allais dire des choses. C'est-à-dire que la mémoire de Zizi étant un peu parcellaire, un peu fragmentaire, et elle manque de mots aussi à cet âge de sa vie, du coup, ça laisse de l'espace, en fait, pour l'absente.
Alors, Zizi Cabane, Chiffon, Béguin, il y a aussi Ferment, le père, on pourrait presque écrire un traité d'onomastique, pour employer un mot un peu savant à partir de ce roman, pour parler donc plus clairement du choix des noms et des prénoms des personnages, c'est ça l'onomastie. Alors, le grand-père qui surgit de nulle part, il s'appelle Marcel Tremble. Alors, on ne va pas tout expliquer quand même, mais choisir le prénom d'un personnage, pour l'autrice que vous êtes, est-ce que c'est déjà brosser son portrait ?
Oui, forcément, parce que après, voilà, pour moi, c'est des prénoms qui ont forcément une résonance intime. Et à partir de là, comme moi, j'écris jamais des choses trop proches de la réalité, par choix, parce que souvent, je trouve que c'est un peu anecdotique de partir de situations trop réelles pour traiter des émotions. Mais donc, je peux leur choisir un prénom qui, pour moi, a une signification. Et ensuite, j'allais dire, c'est la littérature qui fait le reste.
Alors, donc un père qui s'appelle Ferment, par exemple, et qui s'occupe beaucoup de la terre, de tout le jardin, forcément, ça a une signification très, très symbolique, très importante. Et puis, petit détail piquant, mais qui n'en est peut-être pas un, le chat de la famille, chacun l'appelle d'une façon différente. C'est presque le seul personnage du livre qui n'a pas de nom précis, de nom défini, de nom choisi.
Ouais.
Alors, peux-tu nous expliquer pourquoi ?
Au-delà du fait que j'ai eu un chat à qui on n'a pas réussi à donner de nom quand j'étais enfant, ça part de quelque chose d'assez vrai. Et en fait, finalement, je m'aperçois que ce chat qui est une présence comme ça un peu fantomatique dans la maison, mais en fait, il est aussi, enfin, à sa façon, il devient le symbole de cette absence. Et je me suis aperçue après coup que dans plein de cultures, en fait, le chat est voilà, l'animal qui est un peu le messager entre le monde des vivants, des morts, le monde des ombres. C'est aussi un animal nocturne. D'ailleurs, là, il apparaît un peu comme ça.
Oui.
Et ce qui, par exemple, n'est pas du tout le rapport que j'ai au chat en vrai, enfin, voilà, que, ou même que j'avais avec eux enfant. Donc il a endossé ce rôle-là de façon un peu instinctive pour moi.
Et donc parmi les personnages qui se trouvent au départ dans votre récit, la seule du noyau familial qui garde son vrai prénom, c'est la mère, c'est Odile. Et donc c'est celle qui va disparaître. Là aussi, c'est pas un hasard. Alors on va vite comprendre que... Odile, on va dire que la sonorité du mot explique peut-être aussi une grande partie de ce qui va se passer dans les pages suivantes. Vous êtes d'accord ?
Oui, oui.
On va pas en dire plus. Mais bon, voilà, c'est quand même assez clair. Et donc, Odile va disparaître. Vous avez employé le mot vous-même, Bérangère Cournu, du jour au lendemain. Et la disparition, elle est expliquée par Zizi Kabane de façon finalement extrêmement rapide, quoi. Elle le raconte très simplement. Je cite, « On s'était levé un matin pendant l'été et maman n'était plus là. Alors on l'appelle, on la cherche dans la maison, les gendarmes débarquent, le temps passe et quelques lignes plus loin, vous écrivez, je cite toujours, « Il y a eu un genre de cérémonie absurde au cours de laquelle on lui a dit au revoir, une sorte d'enterrement dont ce qui n'avait pas de corps. » Vous passez vraiment très très vite là-dessus. C'est un élément quand même clé, quoi. C'est un élément charnière. Il y a un avant et un après dans votre récit. Mais pour vous, ce moment clé-là, c'est presque une ellipse.
C'est une ellipse parce que je pense que du point de vue d'un enfant, ça l'est. C'est quelque chose qui n'a pas trop de sens. En plus, là, effectivement, dans la disparition d'Odile, on a, voilà, on ne sait pas est-ce qu'elle est partie, est-ce qu'elle a disparu, est-ce qu'elle est morte. À ce moment-là du roman, vraiment, on ne le sait pas. Et en fait, tout ce qui est de l'ordre du rituel, de le revoir, des obsèques, etc., en Occident, et qui est pour nous très... très établi, et donc c'est un peu le moment où on dit au revoir, voilà, n'est pas du tout opérant, dans le cas, pour l'esprit de Zizi Kabane, qui est cet enfant. Elle comprend pas très bien que même si on fait... En gros, c'est ça, hein, y a eu des obsèques dans sa famille. Pour elle, c'est pas signifiant, ça veut pas dire qu'Odile reviendra pas, en fait. Ça n'a pas de sens pour elle.
Voilà.
Et du coup, ça me permet, moi, d'explorer ensuite d'autres choses.
Donc c'est vrai que le mot « mort » n'est pas écrit dans le texte à ce moment-là du livre, ni mort ni morte. Et on comprend, nous, vraiment, lecteurs entre les lignes, évidemment qu'on comprend qu'Odile est morte, mais finalement c'est dit très clairement, très très tard dans votre récit, en l'occurrence à la page 184, alors je cite le passage, « Odile est morte, ça leur fait du bien de le dire à Zizi, de le répéter. » Au final, mettre le mot, ça fait plutôt du bien.
Ça finit par leur faire du bien, mais ça leur fait du bien aussi parce que justement, ils ont, à ce moment-là du roman, ils ont passé plusieurs années à composer avec l'absence d'Odile. Odile s'est manifestée de plein de façons autour d'eux. Je crois qu'on peut dire hein, quand même que, voilà, au moment où Odile disparaît, il y a une source qui apparaît dans la maison et il y a une forme de présence d'Odile qui passe par les éléments, après libre au lecteur d'interpréter ça comme des manifestations réelles de la mère ou bien des interprétations des personnages. Moi-même, j'ai pas tellement de réponse à cette question. Et le temps ayant passé, au bout d'un moment, il faut effectivement, pour rendre à chacun sa vie humaine, pour qu'ils reprennent tous des vies un peu humaines, il est important d'utiliser ce mot humain de la disparition qui est celui de mort. Mais comme entre-temps, ils ont expérimenté d'autres formes de présence d'Odile, finalement, ce n'est pas non plus la fin de quelque chose. Ça peut aussi être le début, c'est une forme de libération, en fait, pour permettre peut-être à l'âme d'Odile de pouvoir aussi s'échapper pour revenir différemment et puis surtout à eux-mêmes de reconstruire une vie sans elle.
Tu sais que toi et moi, elle.
Pam dans VMDN sur RFI avec Bérangère Cournu qui publie Zizi Cabane aux éditions du Tripode. Alors on évoquait au tout début de l'entretien Bérangère Cournu, la construction de la maison. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la construction du livre. Un livre, est-ce que ça se construit comme une maison?
Sans doute pas, mais c'est difficile pour moi de vous répondre parce que je n'ai jamais construit une maison.
Alors normalement, d'après ce que je sais, parce que moi non plus ça ne m'est jamais arrivé, mais normalement quand on construit une maison, on réfléchit déjà à l'idée qu'on veut avoir, on fait un plan, on commence peut-être par les fondations, comme le dit le titre de la première partie du livre, et ensuite on bâtit étage par étage, et puis à la fin, une fois qu'on a tout déblayé, bah, on n'oublie pas le jardin si on a la place d'en avoir. Est-ce que vous avez fait comme ça?
Pas du tout. Je pense que si j'avais fait comme ça, comme maison, vous auriez imaginez construire un immeuble au départ et vous seriez retrouvé avec la muraille de Chine, peut-être.
Ah, d'accord. Donc, voilà. Donc, vous avez fait un plan, mais vous ne l'avez pas du tout respecté, c'est
l'ai
ça
pas, su... bah, je, j'avais,
pas de plan du tout.
J'avais vaguement une... Non, je ne fais pas de plan du tout. Après, j'avais vaguement une idée. Et comme je l'ai dit en début d'émission, au départ, je pensais que c'est la maison qui allait devenir la mère, qui allait devenir cette enveloppe protectrice, etc. Et finalement, sans vouloir faire de jeu de mots, en fait, ça a très vite débordé, dans le sens où la première manifestation après la disparition d'Odile, effectivement, c'est l'apparition d'une source. Mais je pense qu'à ce moment-là, quand j'écris ça, je suis encore dans l'idée que c'est la maison qui va envelopper les personnages, qui va être un peu l'âme de leur famille. Et je pense que d'un point de vue... Enfin, j'ai dû avoir la sensation que si je faisais ça, j'allais faire un tombeau, en fait, et que j'allais les enfermer dans le caveau, et que ce n'était pas du tout une bonne idée.
Et donc, c'est en cours d'écriture vous êtes laissé guider par la source.
Assez naturellement, la source, du coup, fait que la présence d'Odile s'est très, très vite étendue au paysage. C'est-à-dire que dès la première saison, voilà, il y a d'abord de l'eau, et ensuite, très vite, au moment des premières neiges, il se passe autre chose. La neige recouvre le paysage alentour. Et à ce moment-là, je comprends très vite qu'Odile ne va pas s'arrêter là, et il faut même, à un moment donné, que je l'arrête.
Oui, parce qu'elle a une sacrée personnalité, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, pour rester dans la métaphore de la construction, le matériau de l'autrice, ce sont évidemment les mots. Et les mots, vous avez choisi de les agencer de façon très différente d'un chapitre à l'autre. Par exemple, vous les avez mis sous la plume de plusieurs narrateurs différents. D'ailleurs, il y a évidemment Zizi Cabane, qui est la narratrice principale. Mais il y a aussi, par exemple, ses deux frères, le père, la tante Jeanne, quelques autres. Pourquoi cette pluralité des narrateurs-là vous tenait-elle à cœur?
C'est pareil, elle est venue toute seule parce que je n'avais pas prévu à ce point-là que ça devienne un roman choral. Mais je crois que j'avais besoin, justement... de ne pas rester non plus enfermée dans l'innocence de Zizi Cabane. J'avais besoin de faire entendre d'autres voix et j'avais aussi besoin de faire entendre que, tout en ayant des personnalités très différentes les uns les autres, ils avaient aussi, malgré tout, on va dire que ce qui fait le lien entre eux, c'est l'absence d'Odile. Et donc, ils en ont tous des interprétations un peu différentes. Mais c'est vrai qu'au début, quand un chapitre commence, on ne sait pas nécessairement qui parle. Et des fois, on découvre des personnages un peu en cours
Absolument.
De route. Et j'avais vraiment besoin de ça pour pouvoir créer comme ça une espèce de lien entre eux et qui soit, on va dire, une forme de solidarité entre eux qui est très forte. Mais qui, comme la mort d'Odile, ne doit pas être dite, ou en tout cas n'est pas dite. Une forme de pudeur, en fait, dans ce qu'il y est relié.
Vous écrivez en creux, quoi. Vous faites passer énormément de choses, mais sans forcément les dire.
Ouais, et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Alors là, pour le coup, c'est quelque chose que j'assume complètement. Moi-même, comme lectrice, je pense que c'est le genre d'œuvres vers lesquelles je vais. C'est celle où on n'a pas toutes les clés d'un coup, où il n'y a rien d'autoritaire dans la façon dont on va vous présenter, voilà, que ce soit une absence, un deuil, ou même les joies. Hein, je fais la même chose pour les choses qui sont joyeuses. Les blagues de Zizi ne sont pas annoncées comme étant des blagues. Même si voilà, c'est une enfant assez facétieuse quand même à plein d'égards. Il serait que dans le titre, ne serait-ce que par exemple comme Zizi Cabane, j'avais moins en tête Zazie dans le métro ou Zonzon Pépette, qui est un livre moins connu d'un auteur belge aussi, comme ça, qui est tout en pudeur dans les sentiments exprimés. Et voilà, et qu'on parle de, je sais pas moi, de la pauvreté, de la folie, de l'amour, de la joie ou comme des plus grandes peines, j'aime cette façon d'approcher un peu douce.
Donc il y a pluralité des narrateurs, et comme ça, si ça ne suffisait pas, vous changez aussi de genre littéraire. Il y a des passages en prose, il y a des passages en vers, il y a aussi des passages épistolaires, comme cette lettre que le frère aîné, qui s'appelle Martin, mais que tout le monde appelle Béguin, écrit à sa tante Jeanne peu après la disparition de sa mère. Nous sommes à la page 21.
Chère tantine, douce Jeanne. Comme promis, je t'écris pour te raconter comment s'est passé notre retour à la guerre. Ainsi que tu t'en doutais, nous n'avons pas réintégré la maison. Pendant notre absence, papa a aménagé le cabanon en bas du jardin. Nous y dormons maintenant tous les quatre. Tu sais, c'est un peu comme le bungalow où nous nous étions retrouvés une fois pour les vacances. Il est en train de construire une pièce attenante afin que nous ayons quand même une chambre. Mais l'autre jour, quelqu'un lui a demandé, depuis la rue, ce qu'il faisait. Et il paraît que, depuis, la mairie lui fait des problèmes. Alors, il continue de poser ses rangs de parpaings tout en gueulant. « J'emmerde le cadastre !» chaque fois qu'un passant ralentit. Malgré ses recherches, il dit qu'il ne comprend toujours pas d'où vient l'eau qui traverse la maison. Il a réussi à dévier le jaillissement pour lui faire rejoindre le ruisseau, mais avec le voisin du dessus, ils ont cherché partout. Aucune source n'est censée passer par là. Celle du bois au-dessus de chez nous s'écoule déjà dans le ruisseau. Il n'y a pas de raison qu'une autre soit apparue ces derniers mois. Ça ne serait pas si grave si cette eau ne menaçait pas les fondations. Je suis allé voir tout à l'heure avec lui, et c'est vrai que l'eau charriée est blanche, comme si elle dissolvait le calcaire contenu dans le sol. Fermont a peur que ça finisse par creuser une marnière et provoquer un affaissement. Par ailleurs, des taches d'humidité sont apparues partout et par endroits, le bois de la charpente commence à gonfler. Papa dit que nous pouvons continuer à vivre dans la maison en journée, mais il ne veut plus qu'on y dorme. Il dit que c'est temporaire, qu'il finira bien par trouver la solution, mais je remarque que, pour le moment, il continue de poser des rangs de parpaings à côté du cabanon. À part ça, je suis content d'avoir retrouvé le collège et mes copains. Zizi a fait sa rentrée au CP sans problème, et même s'il ne parle pas beaucoup, c'est une chance que Chiffon soit pour une année encore à l'école primaire. Maman aurait été fière de les voir partir tous les deux chaque matin. Je n'arrive pas à croire que ça fasse déjà plus d'un an qu'elle a disparu. J'espère que quand la fuite sera résolue, tu pourras revenir séjourner chez nous. Je crois que, quand tu es là, papa se fait moins de soucis. Je t'embrasse. Ton neveu, ton grand Martin Béguin.
Est-ce que pour vous, l'écriture est un jeu, Bérangère Cornu ?
Non, je dirais pas ça. C'est pas un jeu. Ça, heureusement, je m'amuse en le faisant. Mais non, c'est pas un jeu, c'est une nécessité, hein, d'abord, sinon on ne le ferait pas, parce que c'est quand même beaucoup de travail.
Oui, ça c'est sûr. Mais en plus, jeu au sens, on va dire, dramatique du mot, ouais. C'est-à-dire au sens comédien, parce que là, vous multipliez les narrateurs, vous multipliez les genres d'écriture, vous multipliez donc les exercices différents. Est-ce qu'au fond, une autrice, ce n'est pas un peu une comédienne, quoi, quelqu'un qui joue, qui se met en permanence dans la peau de chacun des personnages ?
Ouais, ça pourrait être ça, mais même ça, je dirais que c'est pas le cas. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression, moi, de me laisser mouvoir par les choses qui arrivent et par les voix qui arrivent. Donc, j'ai plutôt l'impression d'être le jeu
de vos personnages, ouais, et ouais, de l'écriture
vraiment.
En elle-même.
Ouais, vraiment. Et c'est voilà, parfois, du coup, c'est même un peu éprouvant. Parce qu'il faut se laisser traverser par des voies qui sont pas soi, qu'on n'a pas décidé. Moi voilà, Odile, j'ai pas décidé de ce qu'elle allait devenir au fil du roman. Elle m'a beaucoup remuée, et les enfants eux-mêmes, ou même Fermant dans sa folie aussi, m'ont moi-même un peu remuée. Donc non, au contraire, il faut que je trouve. Je pense qu'il m'arrive, il doit m'arriver quelque chose qui doit être une émotion, j'imagine, et il faut que je la transforme. Et ça reste vraiment un travail.
Et pour Zizi Cabane, alors, comment on fait ? Parce que là, pour le coup, j'imagine que vous avez replongé vous-même dans peut-être des souvenirs d'enfance, je ne sais pas. Il y a une dimension autobiographique dans le roman, quand même.
Zizi Cabane, c'est vrai que c'est la seule, peut-être que c'est celle que je maîtrise le mieux, c'est celle que je peux le mieux manipuler, on va dire. Enfin, je peux la faire jouer. Sauf que comme je la fais partir avec une mémoire défaillante et son histoire d'enfant, bah, elle finit elle aussi par me jouer un peu. Mais oui, Zizi Cabane, c'est sans doute celle que j'enveloppe, que j'accompagne le mieux. Voilà. Après, et puis il m'a fallu du temps pour m'apercevoir qu'elle avait aussi un lien très fort avec sa mère, que les autres ne pouvaient pas avoir. Et donc, même à travers elle, j'ai découvert beaucoup de choses.
Alors, c'est vrai que moi, je me suis posé la question, justement, la dimension autobiographique, parce qu'en préparant cette émission, je suis tombé sur votre notice sur le site de la Maison des écrivains et de la littérature, qui indique, je cite, que vous avez grandi en région parisienne dans un paysage d'eau et de collines, autrement dit, dans le paysage de Zizi Cabane et sa famille.
Oui, mais en habitant aujourd'hui à Besançon, je suis toujours dans un paysage d'eau et de collines. Donc, je pense que ça me poursuit. Oui, non, et puis plus que ça, je suis aujourd'hui la mère de trois enfants. Il y a aussi des parallèles à la il y a des parallèles à faire avec Zizi et aussi avec aussi sans doute avec Odile. Mais justement, et on vous avait parlé des noms tout à l'heure, et c'est ça qui est très important, c'est que pour moi, vraiment, la littérature, c'est un moyen, un vecteur très puissant de faire d'histoire et de vie tout à fait anecdotique, quelque chose qui est censé pouvoir rejoindre une pensée un peu plus universelle. Et pour moi, le moyen le plus évident, c'est le conte, en fait. C'est de basculer dans le conte, dans la fable. Je trouve que c'est un pansement de vie incroyablement puissant, léger, qui peut permettre d'emmener beaucoup plus loin que n'importe quelle démarche autobiographique aurait pu le faire pour moi. C'est beaucoup plus fort.
C'est le seul vide que je comblerai peut-être, le seul horizon que je vois par la fenêtre, le seul sommeil qui pourra me faire renaître. Je t'embrasserai juste avant de disparaître. Mon double dont l'eau trouble ravive, dans l'eau vive. Mon ombre dont l'eau sombre, mon ange dans l'eau range. C'est le seul vide que je comblerai peut-être, le seul regard que je saurai reconnaître, le soleil unique. Jamais cessé d'être, je m'inclinerai juste avant de disparaître. Mon double dans l'eau trouble ravive, dans l'eau vive, je sombre, dans l'eau sombre. C'est le seul vide que je comblerai peut-être, le seul inconnu qui répond à mes lettres, le seul mensonge que j'ai oublié d'omettre. Faire un dernier vœu en sautant de la fenêtre.
Anne, la disparition dans VMDN sur RFI avec Bérangère Cournu pour son roman Zizi Cabane aux éditions du Tripode. Alors on l'a dit, les enfants et le père Fermant ont constaté la disparition de la mère Odile. Sauf que cette disparition, eh bien, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, Bérangère Cournu, ce n'est pas une vraie disparition puisque Odile, elle est toujours là dans la terre. Elle va ressortir et apparaître sous d'autres formes, notamment sous la forme de l'eau d'une source. Et c'est donc à travers la nature, à travers les éléments que vous allez faire entendre sa voix par-delà la mort. Elle va prendre d'ailleurs Odile de plus en plus de place, hein, comme si elle voulait à tout prix manifester sa présence aux vivants, leur dire qu'elle est avec eux, qu'elle les aime, qu'elle a toujours une place dans leur vie. Nous sommes à la page 142.
Je ne suis pas faite pour les profondeurs. La croûte là-dessous est trop épaisse. Après la terre meuble des premiers mètres, trop de roches dures vous blessent et vous enserrent. J'ai besoin de remuer, de respirer, je veux soulever des tonnes de galets. Ici, je vois la lune. Elle n'est plus cachée par les arbres. Je n'en pouvais plus des galeries, des lombriques et des entrelacs de racines. Laissez-moi geindre et respirer. Laissez-moi me tordre et hurler. Toute la nuit, je veux hisser vers le ciel mes lames et mes bras d'écume. Cette nuit, personne n'est en mer, sauf quelques pêcheurs, et je les noie. Oh oui, je les noie. Je brise leurs bateaux. Je renverse les sauveteurs. J'immerge leurs phares. Je referme sur quelques vies une eau épaisse et noire. J'ai tant d'appétit à présent. Je veux gémir, engloutir. Un corps comme le mien ne se meut pas sans remous, sans sacrifice humain. Au matin, allant lécher la plage, je vois une petite meute serrée, d'humains souriants et joyeux. À l'éclat de leur regard, qui est celui des cristaux enfouis, je devine qu'ils sont comme les pêcheurs de la nuit. Aucun n'a peur de ma furie. J'ai soudain envie de les arracher de la grève, pour les faire danser dans mes bras. Mais quelque chose me retient, un mouvement qui vient de loin et qui murmure « Tu n'es plus rien, rien qu'un ferment ancien. »
Les mots d'Odile par-delà la mort dans ce texte en vers, à la fois très simple et très poétique en même temps, Bérangère Cournu, les lettres sont en italique dans le texte et cette voix d'Odile, elle revient très régulièrement, elle scande votre récit, c'est une sorte de chant qui s'intercale dans la prose, qui lui imprime aussi un rythme et une musicalité différente. Comment est-ce que vous avez choisi justement, comment est-ce que vous avez défini la place des chapitres en vers, des chapitres d'Odile ? À l'intérieur du récit.
Ben, c'est elle qui ouvre le roman, parce que je pense que c'est elle qui est, c'est elle un peu qui, je sais pas si elle préside, mais enfin elle est partout présente. C'est le seul vrai personnage omniscient du roman. Et ensuite, je pense qu'elle intervient, un peu au moment où les personnages pourraient se laisser engloutir un peu par leur chagrin ou par leur folie ou par. Et elle vient parfois en soutien, elle vient aussi parfois en menace. Hein. Là, c'est pas le chapitre où elle est la plus douce.
Non.
Et il y en a d'autres où elle est plus enveloppante. Mais il y a cette énergie en elle, en fait, qui est là aussi pour. On ne sait pas très bien si les personnages, par ailleurs, l'entendent ou pas. On sait qu'ils l'aperçoivent. Ils ont chacun des canaux, j'allais dire, qui perçoivent quelque chose de
ils
sa
le
présence.
Ressentent.
Voilà, ils le ressentent. Ils l'entendent pas forcément. Et donc moi, ça venait de façon un peu instinctive. Je pense même, il a même fallu que je lui enlève un peu de place à un moment donné. Elle en prenait un peu trop. Et j'ai rien enlevé de ses paroles, mais j'ai resserré un petit peu. J'allais à la ligne beaucoup plus souvent, par exemple. Et il a fallu resserrer un petit peu ça pour justement qu'elle n'envahisse pas non plus trop les autres personnages et qu'elle leur laisse de l'espace pour vivre.
Mais donc c'est l'absente qui est en quelque sorte extrêmement, extrêmement présente, quoi, finalement.
Oui, c'est ça. Bah, après, je pense que moi, je travaille un peu ça livre après livre, c'est-à-dire la place de l'invisible dans nos vies. Là, effectivement, vous avez parlé, il y a des éléments, c'est des conceptions pas très occidentales.
Non. Mais alors, justement, ce n'est pas la première fois que l'animisme, certains diraient aussi le chamanisme, irrigue vos textes. Il y avait la chaleur du désert de l'Arizona dans un roman qui s'appelait « Née contente à Oraibi ». Il y avait le froid de la glace polaire dans « De pierre et d'os ». Ce qui se passe chez les Inuits, il y avait la fraîcheur des ruisseaux dans Élise sur les chemins. Ce rapport à la nature là, il est naturel chez vous ou bien vous l'avez appris, on vous l'a transmis?
Non, au départ il était vraiment naturel, c'est quelque chose que dès mon premier texte il y a 15 ans maintenant au moins, en fait ce que j'ai fait instinctivement moi au départ c'était de comme je dois être quelqu'un d'assez pudique et je confie les émotions de mes personnages au paysage. Donc, quand le personnage va pas bien, il tombe dans un trou. S'il va mieux, il remonte la pente. Mais voilà, c'est un peu systématique. Et puis, c'est vrai qu'au contact des cultures autochtones, voilà, que ce soit amérindienne ou inuite, par exemple, et d'autres aussi, j'ai vu qu'en fait, c'est quelque chose qui est, en dehors de notre civilisation occidentale moderne, en tout cas, c'est quelque chose qui est très présent dans la vie et dans l'univers symbolique, culturel, religieux, de tas d'autres cultures. Et donc, moi, j'ai renforcé un peu ça au contact des cultures amérindiennes. Et finalement, quand je suis revenue dans des paysages beaucoup plus familiers, pour moi, c'était vraiment très naturel de redonner cette place, oui, vous avez utilisé le mot, c'est une forme d'animisme.
Parce que c'est vrai que c'est aussi des autres cultures, justement, Bérangère Cournu, que vous avez appris, que vous vous êtes rendu compte que la beauté, finalement, elle peut se retrouver partout, y compris peut-être dans les choses les plus prosaïques. Je pense par exemple au chiffon, du personnage de chiffon, qu'on a presque l'impression que la beauté, elle est avec nous en permanence, dans la vie, qu'on ne se rend pas forcément compte, qu'il faut juste, finalement, regarder ce qui nous entoure d'une certaine façon pour pouvoir la saisir.
Ça, c'est quelque chose vraiment que j'ai appris au contact des cultures amérindiennes, je pense, voilà, aux Hopis par exemple, ou aux Inuits, c'est que nous, on a beaucoup de choses en fait, dans nos vies, notamment beaucoup d'objets, et on sectorise, on segmente les choses beaucoup, et par exemple, les objets religieux vont être très différents des objets du quotidien, très différents des objets du travail, alors que dans des cultures, des civilisations où on prend le temps de façonner un objet, où on prend le temps de récupérer ce qu'il y a autour de soi, les choses circulent beaucoup plus librement entre ces différents aspects de notre vie. Et par exemple, un objet du quotidien va être fait avec beaucoup de soin, donc il va être très très beau. Et il est tellement beau qu'il est aussi naturellement un objet dont on va se servir pour des rites, par exemple. Et finalement, je trouve que ça nous qui avons des pensées souvent assez dispersées, ça nous permet de nous rassembler, en fait. Et par exemple, ça se traduit, parce que là, il n'y a pas tellement d'objets. Alors si, il y a effectivement
les chiffons. Comment elle vous est venue, justement, l'idée des chiffons, qui jouent un rôle très important, parce que le chiffon, finalement, c'est une sorte de porte vers le rêve, c'est une porte vers le voyage, à la fois physique, donc vers le déplacement, puisque le chiffon est aussi une carte, c'est perçu comme ça, et en même temps, une forme de voyage intérieur, voire spirituel.
Bah c'est ça. Alors ça, c'est quelque chose que je n'avais pas non plus complètement décidé. Donc, chiffon, c'est l'enfant du milieu, c'est l'enfant qui est le plus discret entre Béguin et Zizi. On lui accorde finalement peu d'attention. Il parle peu lui-même. Et un jour, il décide... Alors, il aime toujours les chiffons, mais surtout après la disparition de sa mère, il récupère des chiffons qui ont servi à vidanger, enfin à éponger, donc c'est des chiffons un peu, voilà, qui ont un peu de matière, etc. Et en fait, instinctivement, il va en faire des cartes géographiques. Et dans cette matérialité-là, il fait des cartes qui ne sont pas des cartes réelles, puisque voilà, le territoire n'a pas tout à fait la forme d'un vieux chiffon. Mais finalement, c'est par cet acte-là de dessiner le territoire que lui... C'est comme ça que lui comprend que sa mère est partout et qu'elle est sous ses pas et qu'elle est autour de la maison et dans les collines environnantes et qu'il y a dans cette espèce de mélange d'eau et de sable l'âme de sa mère, en fait.
Mais c'est vraiment aussi un roman du mélange. Hein. Le mélange, le métissage, la polyphonie qu'on évoquait tout à l'heure, et c'est vrai qu'on est vraiment sans cesse entre l'onirisme et la réalité, une réalité qui est parfois très dure, on ne va pas tout raconter, mais dans la dernière partie du roman, Zizi Kabane va encaisser vraiment des coups très rudes, en particulier dans son corps. Mais il y a toujours une forme de résilience, il y a toujours une forme d'optimisme, il y a toujours une forme d'espoir. Est-ce qu'elle a un don, Zizi Kabane, Bérangère Cournu, le don de voir sa vie d'une façon singulière?
Alors, elle l'a sans doute, mais j'allais dire, ce qui lui arrive, c'est aussi très proche de tous les rites d'initiation qu'on trouve dans plein de cultures aussi. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, la souffrance est ritualisée comme un peu une répétition d'une souffrance possible telle qu'elle nous échoue à tous un jour dans la vie, que ce soit la maladie de nos proches, la disparition, voilà, ou des coups durs de toutes sortes. Et Zizi Kabane, ben voilà, elle expérimente ça dans une culture où les choses ne sont pas ritualisées. Elle le rencontre par la disparition de sa mère, l'entourage de sa famille et puis les accidents de la vie tels qu'ils peuvent advenir. Et donc, je ne sais pas si c'est un don, je ne sais pas si elle en est consciente ou pas, mais en tout cas, elle le vit comme ça, dans une forme de matérialité corporelle. Ouais.
Et Zizi Kabane s'interroge aussi sur ce qu'est l'amour d'une mère, elle trouve ça curieux et elle ajoute, et là aussi je vais citer, c'est quelque chose qui vous contient tout entier, donc l'amour d'une mère, hein, durant 9 mois, puis qui vous lâche. Ensuite, c'est du soin constant, puis du souci, de la joie aussi, enfin j'imagine, puis un jour plus rien. Et elle conclut, quelques lignes après, Bérangère Cournu, au fond, je n'en sais rien, en fait. Est-ce que vous, Bérangère Cournu, qui n'avez pas l'âge de Zizi Kabane dans le roman, est-ce que vous avez compris, en écrivant le livre, ou peut-être l'avez-vous compris avant, ce qu'est l'amour d'une mère?
Bah, en tout cas, je l'ai exploré dans ce livre-là, et effectivement, l'amour d'une mère... On a souvent, on nous vend un idéal d'une mère omniprésente Et voilà, or on sait que la vie, ça peut ne pas être ça. Donc ayant moi-même 3 enfants, c'est forcément une question qu'on se pose hein, à un moment donné. Et quand je serai plus là, qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai trouvé ça très beau parce que tout récemment, j'ai fait une rencontre en librairie et il y avait un jeune homme, je crois qu'il venait du Burkina Faso, et qui m'a expliqué que, en fait, dans son village, dans sa société, il y avait le fait que la mère était un peu toute puissante, omniprésente dans la sphère domestique, on va dire. Et que même quand cette mère n'était pas là, même quand elle était absente, morte ou disparue, en fait, en permanence, on invoquait cette mère. Et en fait, la présence était vraiment beaucoup là. Et lui, la question qu'il m'a posée, j'ai trouvé ça très beau parce qu'il était question du même passage. Il m'a dit, mais vous dites que c'est une libération, à la fois pour la mère et les enfants. Mais est-ce que c'est vraiment une libération? Parce qu'une fois qu'elle n'est pas là, elle reste là quand même. On la convoquera toujours. J'ai trouvé ça très beau.
Eh bien, on salue au passage tous nos auditeurs du Burkina Faso. Merci beaucoup, Laurent Vercournu. Zizi Kabane est paru, je le rappelle, aux éditions Le Tripode.
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight.
Been spending most of the nights living.
The situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know.
Gangsta's Paradise, sans doute le plus grand tube de Coolio, dont on a appris le décès hier à Los Angeles. Avant de se quitter, un petit détour par le Sénégal, plus précisément par la nouvelle école de street art RBS Academia, qui se trouve à Guédiaouai, dans la banlieue de Dakar. Reportage sur place de notre correspondante Théa Olivier.
Dans une salle au mur recouvert de graffitis, 7 élèves sont concentrés sur une grande table à dessin. Un crayon à la main, il trace les premières esquisses de l'exercice demandé par Akonga, l'un des professeurs qui enseigne le concept art, c'est-à-dire le fait de matérialiser ses idées et développer son imagination sur papier.
Ils vont faire quelque chose qui leur est propre et dont ils vont s'identifier. Prendre quelque chose qui est spécifique à leur culture, ils vont penser à quelque chose de vraiment très ancré en eux, dans leur tradition. Essayer de projeter ça dans le futur très très lointain. Et ils doivent faire ça sans l'impact de la globalisation ni de la mondialisation.
Après la théorie sur l'historique du graffiti et sa venue au Sénégal, place à la pratique. Cours de dessin, de crayonnage, de peinture ou de portrait, les techniques de base sont enseignées en classe. Kémit, 29 ans, a mis de côté ses études en géographie à l'université pour se consacrer à l'art.
Ce que je veux faire, c'est m'exprimer moi-même à travers mon vécu, à travers ma culture qui est africaine. Je voulais exprimer mes idées à travers le graffiti. Donc, il fallait apprendre à dessiner parce que je n'avais pas les bases nécessaires pour dessiner. Et ici, j'ai beaucoup appris en très peu de temps. Donc, ça va m'aider dans le futur à bien m'exprimer
quand j'ai une idée dans la tête, donc je peux maintenant le dessiner et l'exprimer.
Pour 3 journées de cours par semaine, les élèves paient 15 000 francs CFA par mois, des frais versés par le père de Moudou Malik Bodj, élève de 22 ans, qui vient d'une petite ville au nord du pays.
Auparavant, c'était difficile avec mes parents, c'est-à-dire quand je dis je faisais de l'art, les études m'ont dit non, étudie. Ah, mais après, j'ai décroché le bac. Bon, j'ai parlé avec mon père pour me donner l'opportunité de venir à Dakar pour intéresser le RBS Academia. C'est-à-dire, je suis venu pour maîtriser le graphe, les crayonnages, pour mieux sortir ce qui est de moi, parce que l'art, c'est ma vie. Bon, moi, j'aime l'art pour sensibiliser, de donner des leçons de morale et de dénoncer l'état de la société.
L'école a aussi pour objectif de pousser les élèves à développer leur sens de l'entrepreneuriat. C'est l'objet du cours de Diablos, graffeur et membre historique du collectif RBS Crew.
Avec les élèves, j'ai eu genre quelques séminaires avec eux pour expliquer ce que ça veut dire la marque. Alors qu'on fait que leur nom même, c'est une marque. Et comment le faire valoir et comment présenter le projet, comment faire une esquisse et comment démarcher ça. L'artiste, il doit développer sa propre structure, des choses comme ça. Si les petits commencent à venir, donc du coup, il faut mieux leur expliquer comment se faire vendre, comment avoir des clients, parce que là, il s'agit de vivre avec son art.
L'école se trouve dans une maison qui est aussi le siège du collectif RBS Crew, présidé par le graffeur Seri Mansour Fall, de son nom d'artiste Mazo.
Les choses grandissent à un moment où on a aussi l'opportunité de se retrouver tous ensemble, de travailler tous ensemble sur un même lieu. Et aussi, que ça soit une galerie ouverte sur les murs, où on sort quand il y a des sessions de peinture, on est dans la cour. Donc c'est une zone créative où tout le monde se retrouve et partage ses émotions en quelque sorte. Cette école est née d'un souci de transition. On voulait aussi passer la relève, préparer aussi la relève. On voulait aussi passer l'information à comprendre que en fait, le graphe n'est pas un cercle fermé. En fait. Ça n'appartient pas à une sorte d'élitisme artistique, mais que ça pouvait être à la portée de tout le monde.
Une volonté de démocratiser et de valoriser le graffiti, encore peu considéré au Sénégal. Théa Olivier, Dakar, RFI.
Le journal dans une poignée de secondes. Sur RFI, on se retrouve demain, bien sûr, avec la romancière Emilienne Malfatto pour un livre coup de poing, Le colonel ne dort pas, paru aux éditions du Sous-Sol. Et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.